Aujourd'hui, on poursuit la série que Marc et d'autres avaient commencé, puis ont presque fini, en fait, sur l'Apocalypse. Je vous invite à prendre le chapitre 20, les versets 1 à 6 du livre de l'Apocalypse. Et c'est sur le règne de 1000 ans, le millénium, le texte. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Le texte dit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Seigneur, on te demande ce matin de nous éclairer, de nous illuminer. Ta parole n'est pas toujours facile à saisir, à comprendre, à mettre en contexte, Seigneur, mais donne-nous toute la force, toute la lumière, toute ta lumière, Seigneur, pour nous aider à comprendre avec nos moyens humains ta vérité. Amen. Là, cette question-là, hein, de la fin des temps, le fameux règne de 1000 ans, bon, c'est certain que quand on lit l'ensemble de la Bible, on a toutes sortes de choses sur la fin des temps. On en parle toujours à partir du point de vue où on se trouve. Parce que si on veut que ça s'incarne, les auteurs des textes bibliques, bien, il a fallu qu'ils tiennent compte d'où ils partaient, d'où était leur situation. Et c'est certain que quand on est en temps de persécution, on va parler de la fin des temps d'une autre façon que quand on est en temps de paix. On a vu déjà dans les semaines passées comment l'Apocalypse est écrit dans un temps de persécution. Il y a ce qui est dit et qui est très difficilement, c'est vrai pour l'ensemble du texte biblique, c'est très difficilement saisissable pour l'intelligence humaine ce que dit le texte biblique. On est toujours pris avec quelque chose, c'est-à-dire nos interprétations. Et c'est pour ça qu'on a besoin, pour lire la parole de Dieu, absolument de l'Esprit-Saint qui nous illumine, sinon on peut comprendre tout à fait autre chose. Certains même réussissent à comprendre la révélation des extraterrestres à travers ce livre-là. Évidemment, l'Esprit-Saint n'est pas nécessairement là à ce moment-là. Mais quand on a l'Esprit, là, on peut réussir à comprendre une chose. Mais comprendre la volonté de Dieu, pouvons-nous, comme être humain, comprendre, saisir dans sa totalité, sa plénitude, la volonté de Dieu? Ben non, pas dans la condition historique où on est, pas dans sa plénitude. On en comprend des bribes. Et on essaye, grâce à l'Esprit, grâce à la communauté chrétienne qui nous supporte dans la compréhension, dans la lecture, de construire quelque chose qui aura une portée pour le temps là où on se trouve, pour le moment d'histoire où on se trouve. Et puis, la tâche est à refaire quelques générations après. En fait, elle est toujours à faire et à refaire. Mais ça paraît plus au bout de quelques générations. On a à revoir encore le texte, ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, de le remettre en contexte, et ça n'arrête pas. On ne peut pas dire on l'a interprété. On a la vérité maintenant une fois pour toutes, puis on est correct jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On est toujours appelé à recomprendre le texte. Et cette fameuse question-là des 1000 ans, ben, a eu une multitude d'interprétations à travers l'histoire. Certaines intéressantes. En l'an 999, ça s'approche du 1000 ans. Le roi de Bourgogne a peur. Parce qu'évidemment, quand on est roi et qu'on a conquis des royaumes, bien, il a fallu qu'on en tue du monde, il a fallu qu'on en commette des péchés. Puis il a peur à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il distribue en 999 toutes ses terres à d'autres, et principalement à des ecclésiastiques. C'est comme ça, entre autres, qu'est né ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le canton du Jura. La République et canton du Jura en Suisse. Ça ne fait pas si longtemps que ça appartient à la Suisse. Ça a été un État indépendant de 999 jusqu'à la chute de Napoléon, 1815, autour de 1815. Parce qu'il y a eu un roi qui a eu peur à la fin du monde puis qui a donné à l'évêque de Porrentruy ses terres. D'ailleurs, ensuite, quand Napoléon a perdu, ça a été donné par le traité de Vienne à l'État de Berne, au canton de Berne. Puis, le canton du Jura a eu son indépendance du canton de Berne en 79. Puis, il a repris une autre partie de son territoire historique lors d'un référendum il y a 2 ans, tout récemment. Et encore aujourd'hui, le drapeau du canton du Jura, c'est un drapeau rouge, couleur des épiscopes, des évêques, avec la crosse de l'évêque de Porrentruy qui est là. Donc, c'est bizarre parce que la Suisse francophone, elle est surtout protestante, sauf le canton du Jura, qui est un canton catholique, et qui a été créé à cause de la peur de quelqu'un, parce que quelqu'un avait peur à la fin du monde. Un autre penseur aussi, qui lui a beaucoup influencé la philosophie, la théologie, un franciscain, Joachim de Flore, qui lui avait bien calculé le temps pour pouvoir calculer le règne de Christ, le règne de 1000 ans. Et puis, il a compté le temps de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, ça c'était pour lui l'âge du Père. Et puis là, après ça, il a calculé le temps qui allait jusqu'en 13 ou 1400 quelque chose, l'âge du Christ, qui est l'âge du Nouveau Testament. Et puis, on arrivait à la conclusion que là, il y avait un troisième âge qui s'en venait, l'âge de l'Esprit-Saint, où là aussi, il y aura un livre, entre guillemets, qui sera transmis, mais qui ne sera pas un livre, sinon que ce sera la présence de Christ lui-même, et puis ça va être la parole vivante par l'Esprit qui va se transmettre, l'âge de l'Esprit-Saint. Ce qui est toujours étonnant, c'est que quand les auteurs parlent du millénium comme ça, ils le prévoient toujours pour le temps, pour les années qui suivent le moment où ils prévoient. Jamais pour dans des millions d'années ou des milliers d'années, mais dans ce qui suit. Tout ça pour dire qu'évidemment, et c'est tout à fait normal, les gens comprennent à partir de leur réalité ce qu'il y a dans le texte biblique. Bon, Joachim de Flore, évidemment, ça passe. On ne l'a jamais nommé Saint Joachim, hein? Ce n'est pas lui, Saint Joachim, c'en est un autre. Il y a eu un autre auteur, penseur, au temps de la Réforme, dans les années 1500, Thomas Münzer, qui lui avait fait partie du mouvement de Martin Luther, puis que, bon, il y avait quelque chose de fondamental pour lui dans la Réforme, c'était que la foi était enfin dissociée du pouvoir politique, du pouvoir oppresseur. Sauf que là, à un moment donné, Luther a dû s'acoquiner un petit peu avec les princes saxons, parce qu'il bon, y avait des alliances politiques à faire. Puis là, lui, il s'est opposé au prince saxon, il s'est opposé à Luther, puis il a dit « il faut que le règne de Dieu vienne ». Mais là, ça a l'air que ça ne viendra pas tout seul, ça fait qu'on va l'aider. Ils ont pris les armes et c'est la fameuse guerre des paysans en Allemagne qu'on a connue. Ils ont dit « on va construire le royaume de Dieu avec nos mains et avec nos armes ». Évidemment, ça n'a pas marché. Il y en a d'autres aussi plus proches de nous qui croient en ce millénium-là, c'est-à-dire au pied de la lettre, Christ qui revient, qui règne pour 1000 ans, 1000 ans, pas 1001 ans, pas 999 ans, sinon 1000 ans. On a cette vision-là des choses, cette compréhension-là des choses aussi chez les témoins de Jéhovah, par exemple. Parallèlement à ça, il y a aussi, à partir des mêmes textes bibliques, des gens qui ont fait d'autres lectures. On dit qu'il faut faire attention à la symbolique des chiffres. Là, je parle ici d'un saint Augustin, Augustin d'Hippone, qui disait, lui, déjà, à la fin du 4e siècle, début du 5e siècle de notre ère, faisons attention à ces chiffres-là. Beaucoup ont prévu des choses avant nous, les ont calculées, puis ça ne s'est pas tout à fait passé comme il l'avait dit. Et en même temps, ça nous détourne, quand on est tellement pris par les chiffres, par ces calculs-là, ça nous détourne du message de fond. Oui, on croit que Christ va revenir, on ne sait pas quand. Et ça ne nous regarde pas quelque part. Nous, ce qui nous regarde, c'est construire le royaume de Dieu. Suivre les indications. Qu'est-ce qu'il y a comme fondement pour construire le royaume de Dieu? C'est de prendre ça et puis de l'appliquer. Bon, là, tous les problèmes théologiques commencent, justement. La tâche est lourde, parce que saisir ça, aller en commun vers quelque chose, construire une société nouvelle, construire des êtres humains nouveaux aussi, on n'en a pas tous la même compréhension. Même si on se base tous sur le même texte. Donc, on a eu à construire ça. Et puis, on est encore un peu là-dedans aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, ce matin, c'est précisément ce qu'on va essayer de voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là comme fondement? Pour voir qu'est-ce que ça veut dire, le règne de Dieu aujourd'hui. Il y a encore quelques petites précisions à faire. On parlait tout à l'heure des dangers de prédire la fin. De prédire quelque chose qui va venir. Finalement, quand ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des expériences quand même intéressantes aussi. Il ne faut pas voir tout ça comme étant quelque chose de négatif. Il n'y a pas longtemps, je me suis un petit peu imbibé du mouvement des Adventistes du septième jour. Où eux sont nés comme ça. Ils ont commencé par prédire une date de la fin des temps. Une année d'abord. Après ça, ils se sont dit, on s'est trompé, ça ne sera pas cette année-là, ça va être telle autre date. Mais on avait une date précise en octobre de 1845, quelque chose comme ça, c'est là que ça allait arriver. Les gens se sont levés le matin, ils se sont préparés pour monter aux cieux, puis on était obligés de rentrer à la maison le soir parce que ça ne s'est pas produit là. Et puis là, il y a toute une démotivation qui se produit. Et puis finalement, ben, on a, avec le temps, fini par comprendre que ce qui avait été annoncé ce jour-là, ce n'était pas la fin des temps, c'était le début d'un mouvement d'Église, où l'espoir est en train de se travailler, est en train de se construire. En fait, on n'a pas tout à fait tort en disant qu'il y a quelque chose du royaume de Dieu qui a commencé à ce moment-là. Parce que quand on vit ensemble, quand on apprend à former l'Église ensemble, bien, on est en train de construire le royaume, le règne de Dieu. Et puis ça, c'est une idée qui a fait son chemin. Donc, ils ont donc petit à petit laissé l'idée d'essayer de prédire la fin, puis de plus en plus de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour édifier l'Église de Christ dans le monde? Ensuite, sont venus des mouvements missionnaires, toutes sortes de choses. Et puis aujourd'hui, bien, on sait que c'est une Église qui a eu une expansion importante. Mais parce qu'ils ont été capables de voir, finalement, à un moment donné de leur histoire, le fond de l'affaire. Essayer de creuser. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce qui nous est révélé? L'appel à vivre pour le règne de Christ. Christ aujourd'hui, bon, on peut espérer que Christ revienne. Évidemment, ça fait partie de notre foi. On l'espère, on le souhaite. En même temps, ce que j'expérimente chaque jour, ce qu'on expérimente chacun de nous chaque jour avec Christ, c'est sa présence dans son corps ressuscité qui est l'Église. Parce que parfois, on a un petit peu tendance. Tout ce qu'on voit de Christ, on reproche les anciens. On dit, ben voyons donc, au temps d'Israël, comment ça se fait? Dieu leur parlait, puis ils ne comprenaient pas, puis ils faisaient d'autres choses, ils sont donc bien niaiseux. On fait la même chose. On a Christ présent avec nous à travers l'Église, mais on attend quelque chose d'autre, qu'on ne sait pas au juste c'est quoi, comme s'il n'était pas déjà présent avec nous, alors qu'il l'est. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore à attendre une autre venue. Non, ça aussi, ça fait partie de notre foi. Mais il existe une réalité. Christ présent dans son Église, c'est-à-dire ici, au milieu de nous. À travers chacun de nous, Christ est là. Christ est incarné aujourd'hui dans son Église. Quand on dit ça, il faut aussi nuancer puis faire attention. Parce que ça a été un prétexte pour dire « Le royaume de Dieu va arriver, c'est quand l'Église va prendre le pouvoir. » Il y a certaines églises qui ont dit ça à travers l'histoire. Elles ont formé ce qu'on appelle des théocraties. Autrement dit, c'est le pouvoir du pape ou le pouvoir des évêques qui est au-dessus de tout. On a pris le pouvoir, le règne de Dieu s'en vient. Ça fait qu'on va brûler les sorcières, on va brûler tous ceux qu'on pense qui sont des sorcières, tous ceux qui ne disent pas comme nous autres, etc., etc. Ce n'est pas exactement la vision que je porte du royaume de Dieu. Mais on a confondu un peu les deux. On confond un peu l'Église institution et l'Église peuple de Dieu, l'Église de Christ, l'Église qui est formée par tous ceux qui sont élus par Christ. On ne sait pas toujours c'est qui. Ils ne sont pas tous membres du même groupe ecclésial. Il y en a dans des places qu'on ne penserait jamais qu'il y a des élus là. Il y en a qui ne sont pas nécessairement élus puis qui font partie des églises officielles. Mais tout ça, c'est tous ceux qui sont élus qui forment le peuple de Dieu. On n'est pas toujours capable de les identifier. Nous, on peut savoir avec conviction, je pense, avec la relation qu'on a avec Christ, que oui, on fait partie de ce gang-là. Chez les autres, des fois, on est un petit peu hâtif à exclure. Un petit peu comme dans certains mouvements étudiants dans lesquels j'ai fait partie, de tendance assez marxiste, où finalement, les vrais seuls marxistes se résumaient à peu près 3-4 personnes, les autres étant tous des bourgeois et des transfuges, parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Il faut faire attention pour ne pas répéter cette erreur-là. Non, il y a des gens, on se dit, je ne suis pas sûr qu'il fait partie des élus. Ce n'est pas à toi en juger. Le Seigneur travaille en lui. Plus les gens ont des défauts, moins les gens sont conformes à la volonté de Dieu, plus le Seigneur a du travail à faire en eux. Est-ce que Dieu s'arrêterait devant le travail qu'il a à faire dans quelqu'un pour ne pas l'amener avec lui? Ben non. Il faut toujours voir ce potentiel-là. Plus le verre est vide, plus il y a de place à l'esprit pour travailler. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, il faut faire attention. Bien sûr, l'Église, c'est aussi une institution. Il faut aussi l'organiser. On a à se réunir dans des lieux. On a à financer des activités. On a à s'organiser. Mais quand on parle de l'édification de l'Église, de ce qui amène le règne de Dieu, ce n'est pas l'institution. L'institution, c'est ce qui va servir l'Église à justement régner dans le monde, c'est-à-dire Christ à régner dans le monde. Parce que l'Église, c'est son corps palpable, réel, présent avec nous. C'est ce qu'on voit tous les jours. Autre petite précision à apporter. On parle de royaume, on parle de règne de Dieu. En théologie, on fait souvent une différence entre les deux. C'est une différence qui est, disons, plus théologique, historique que d'autres choses. Dans le fond, on porte toujours la même idée. Mais quand on a parlé dans l'histoire du royaume de Dieu, on parlait de quelque chose d'établi, quelque chose qui s'établit, quelque chose de ferme, presque d'un système politique parfois. Comme tout arrête, tout ce qu'on connaît arrête, et puis là, le royaume de Dieu va s'établir. Quand on parle du règne de Christ, Christ peut régner même dans le désordre. Christ peut régner même à travers le mal. Et nous, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on souhaite, on ne dit pas que le royaume de Dieu n'arrivera pas. Ce qu'on dit, et ce à quoi on peut participer, c'est l'édification de ce règne de Dieu-là, de ce règne de Christ-là dans le monde, en construisant sa présence, en construisant l'espace de sa présence. Et ça, ce règne de Christ-là, c'est dans la mesure où l'Église, la vraie Église, l'Église de Christ, l'Église des élus, celle des membres de l'Église, nous qui sommes ici, d'autres qui sont ailleurs, font présent les principes fondamentaux de la foi chrétienne dans le monde, font présent les principes fondamentaux et les valeurs fondamentales du royaume de Dieu depuis maintenant dans le monde. Il y aura du mal, il y aura du péché qui existe, il y aura des attaques de l'ennemi qui vont exister. Mais nous, comme chrétiens, on est appelés à faire présent ce royaume-là en action, en parole, en prise de position. Christ qui règne pour mille ans. On rentre dans le vif du sujet. Mille ans. On utilise souvent des expressions en chiffres, on le fait nous-mêmes. Hein? Puis, comment ça va? Quelqu'un nous pose la question. Ah, ça va bien, mais toujours 56 affaires à faire. Si je fais la liste des choses à faire, ça ne donne pas 56. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais ce n'est pas 56. C'est une façon de parler. On a 3-4 affaires à faire avant d'aller chez vous. Ce n'est pas nécessairement 3-4. L'autre, on va utiliser un chiffre de façon assez allégorique. Attends-moi 5 minutes, je m'en vais prendre une bière. Ça ne veut pas dire juste une. Hein? Bon. On parle comme ça. On parle par allégorie, des façons de parler. Les chiffres ont un symbole dans la culture où on est. Ça a une portée. Des fois, on parle du 56 affaires à faire pour 100 000 affaires à faire, parce que, hein, puis on exagère. Non? Le 1000 a un peu cette portée-là. 1000, c'est pour tout le temps. C'est tout le temps, 1000 ans. C'est que Christ va régner pour toujours dans le monde. On y met une petite nuance quand même dans le texte, parce qu'à la fin, Satan sera déchaîné. Pour un petit peu de temps. Mais en fait, l'affaire est réglée. Il y a quelques semaines, Marc avait prêché là-dessus. Il disait, l'ennemi est vaincu. C'est fait, ça. Mais il reste des traces de ce qu'il a semé. On en est un petit peu porteur. Ça, il faut toujours le combattre. Donc oui, Christ a vaincu pour toujours. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus à combattre, nous, encore. On a souvent une image, hein, quand il y a des guerres, il y a le traité de paix, puis après ça, tout est fini. Ça va bien. Les fleurs se remettent à pousser, puis tout le monde se remet à être heureux. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. En Colombie, où j'ai vécu plusieurs années, on a signé un traité de paix. Les affaires ne se sont pas concrètement arrangées après. Malheureusement, quand on a signé un traité de paix après la Deuxième Guerre mondiale, tout ne s'est pas arrangé partout. Il y a eu des déplacements de population, il y a eu des camps de réfugiés, des gens ont vécu là pendant des années et des années. Les choses doivent se replacer, et puis là, on a un rôle à jouer parce que ça se passe dans l'histoire, puis c'est nous qui formons ce corps de Christ-là dans l'histoire. Tout ne repose pas sur nous, et tout ne dépend pas de nous, et surtout le succès ne dépend pas de nous. C'est Christ qui fait tout, mais à travers nous. C'est là notre mission. Il y a un règne qui s'établit dans ce qui est annoncé ici, ce règne-là pour toujours, il y a un règne qui s'établit dans la société. L'Église est en fait en soi une unité sociale. Mais aussi, c'est un règne qui s'établit en chacun de nous. C'est la présence du Christ, c'est Christ qui va régner en nous. On a vu dans le texte, On parle d'une première résurrection, hein, qui est au moment où l'ennemi est enchaîné, Satan est enchaîné. Tous ceux qui ont souffert, puis on parle entre autres des martyrs en particulier, ceux qui ont été décapités pour la foi, qui vont ressusciter. Et puis après ça, bien, après les règnes de 1000 ans, là, il y aura la grande résurrection, puis le jugement final. Ce n'est pas la fin des temps, là. Ce qui se passe ici, quand Satan est enchaîné, c'est un autre moment de l'histoire. Une méta-histoire, une post-histoire, mais bon, c'est autre chose qui est en train de se construire. Donc, il y a cette résurrection-là d'abord. C'est important à saisir pour le cheminement du croyant, le cheminement personnel du croyant. Parce que quand on devient chrétien, quand on se reconnaît comme étant pécheur, qu'on reconnaît qu'on ne peut pas sortir du péché sinon que par Christ, et puis que là, à partir de ce moment-là, on décide de l'inviter dans notre vie, puis c'est lui qui va prendre le pouvoir de notre vie, on vient d'enchaîner l'ennemi. Tous les problèmes viennent d'arrêter? Non. Mais il y a quelque chose de nouveau qui naît en moi. On dit naître de nouveau à ce moment-là. Quand on est baptisé de l'Esprit, on est de nouveau. Il y a une résurrection aussi. Sur le plan personnel, dans ma vie aujourd'hui, je vis ça, ce qui est annoncé pour la fin des temps. Ça veut-tu dire qu'un n'arrivera pas parce que l'autre arrive? Non! Tout ça est connecté. Mais je le vis personnellement. Et comment je peux dire, oui, je le souhaite pour la fin des temps, pour la collectivité, mais moi, je ne le fais pas. Alors que ce corps de Christ-là qui sera présent, c'est nous tous ensemble. On ressuscite, on est de nouveau, et c'est là que Christ règne en moi. Et ça, ce sera un combat de tous les jours. Parce que l'ennemi attaque. Il est vaincu. Il continue à donner des coups d'épée. Nous, on continue encore à se laisser prendre par ça. On a été un peu configuré par ça aussi dans notre histoire. On vit dans une société qui nous modèle selon des principes qui ne sont pas ceux du Christ. Et on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques de ça. Encore, il faut toujours avoir la conviction que nous, en devenant chrétiens, on enchaîne Satan, on l'envoie de là où il vient, on ressuscite, on est de nouveau, et à partir de ce moment-là, Christ règne en moi. On a toute l'autorité du monde pour dire, quand on est devant la tentation, « Christ, c'est toi mon maître, c'est toi que je suis, chasse tout ce qui n'est pas de toi, de mon cœur et de ma tête. » Chasse tout ce qui n'est pas de moi, autour de toi, autour de moi. Enlève tout ça. Mais c'est certain qu'on voit bien concrètement qu'il reste quelque chose encore de cet ennemi-là qui rôde autour de nous, qui essaie de nous faire tomber, le souffle du désespoir peut-être, mais qui est assez efficace, malheureusement. Nous, on a combattu ça. Quel moment précis? De quoi je parle quand je dis ça? Entre autres, tous nos manques de confiance en nous-mêmes. On est élus par Christ. Si on nous appelle à faire quelque chose, c'est au nom de Christ qu'on le fait. « Ah, c'est parce que je ne suis pas capable, je ne suis pas bon là-dedans. » C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est une attaque de l'ennemi. Il y a un tas d'affaires qu'on n'est pas capable de faire jusqu'au moment où on se surprend à le faire. Et tout d'un coup, Christ est là pour nous supporter. Il est là derrière nous. Et il agit de cette façon-là, l'ennemi. Il essaie de nous faire croire des choses qu'on ne peut pas, que ce n'est pas à nous de faire ça, que voyons donc, on n'a pas les compétences nécessaires. Vous ne pouvez pas aspirer à ce poste-là pour votre travail. Ça prend des gens compétents pour faire ça. Vous n'avez pas les compétences, n'y croyez pas. Attaque de l'ennemi, ce que ça veut dire précisément, c'est parce que quand vous suivez Christ puis que vous êtes en train d'accomplir sa volonté, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va vous dire à l'intérieur, tu ne peux pas le faire. C'est une attaque de l'ennemi. si Christ, si vraiment c'est quelque chose que vous faites pour l'honneur et pour la gloire de Christ, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il ne faut surtout pas se laisser intimider par l'ennemi qui nous dit « Tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas capable, tu n'as pas les compétences. Ton français n'est pas assez bon pour travailler ici. On n'y croit rien de ça. On va le faire. Si Christ, si Dieu nous met sur cette piste-là, c'est parce qu'il a décidé de nous utiliser pour ça, pour construire, pour édifier son règne dans le monde. » Autre chose aussi, c'est de prendre des choses telles qu'elles sont pour acquis. On le voit, il y a des injustices dans le monde, il y a de l'exclusion. Ça, c'est sur un plan peut-être un peu plus collectif. Il y a des lois. Puis bon, c'est de même, qu'est-ce qu'on peut y faire, une autre attaque de l'ennemi? On peut tout faire contre ça. Tout est possible contre ça. On a un système économique qui crée un clivage absolument épouvantable entre les personnes, des gens qui vivent dans l'opulence et d'autres qui n'ont pas suffisamment pour se nourrir. Des politiques qui favorisent ça. Des politiques qui vont donner des droits à certains, puis pour les autres, ça n'en sera pas. Le droit de migrer, par exemple. Il y a des lois, et puis on est habitué un peu dans nos églises à dire qu'il faut respecter la loi. Il y a quelque chose de ça, bien sûr. Il faut faire attention aussi, parce que les lois changent. On était dans l'illégalité à fumer du pot dans le stationnement, et aujourd'hui, on est dans la légalité en fumant du pot dans le stationnement. Ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que c'est correct? Est-ce que je veux faire ça? Non, ça ne change rien. Ça a beau être légal, ce n'est pas mieux pour autant. Ce n'est pas parce que les autorités du monde, ce n'est pas parce que les autorités qui se font influencer par l'ennemi décident que quelque chose est correct que ce l'est pour nous. Ben non! Et ça, c'est une attaque de l'ennemi. Il nous confond. Parce que c'est ça, l'ennemi, c'est de nous confondre là-dedans. Nous, on a des principes. On a à être ferme dans nos principes. Et on est maintenant dans des sociétés qui, et je suis tout à fait en faveur de l'ouverture, mais on va utiliser la question de l'ouverture pour amener des principes qui vont à l'encontre de la foi chrétienne. Et ça, il faut faire attention. Mais oui, il faut de l'ouverture. Oui, il nous faut des sociétés plus progressistes, socialement, politiquement, juridiquement. Des sociétés qui ne pensent pas que obéir à la loi doit absolument résulter, avoir comme résultat une punition. Pas comme ça que ça marche. Pas selon Dieu, en tout cas. Parce que si Dieu punissait selon nos actes, tout le monde est condamné. Il faut prendre cet exemple-là puis dire comment on peut développer une société qui va vivre avec la compassion, qui va plutôt chercher à réparer les erreurs commises qu'à punir pour des erreurs commises. Mais chaque fois qu'il y a des attaques personnelles contre vous, personnelles, qu'on vise votre personne, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez beau, que tu n'es pas assez bon dans telle chose, puis qu'on vise l'intégrité d'une personne, c'est une attaque de l'ennemi. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose que Dieu veut que vous fassiez. Et l'ennemi ne veut pas. Combien de temps on a résisté à faire quelque chose? On a procrastiné quelque chose parce qu'on se disait, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Et puis quand ça se fait finalement, on voit la bénédiction que ça apporte. Il y a eu quelque chose là. Dieu aussi utilise ça pour qu'on apprenne. Il y a une pédagogie aussi là-dedans. Pour apprendre à faire confiance à ce qui est en nous. À cette partie de Dieu là, à Dieu qui est en nous, qui nous habite. Et d'être capable de l'écouter, de comprendre ce qu'il nous dit. C'est avec des erreurs qu'on apprend toujours, hein? Donc, entre autres, ce qu'on sort aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'entre autres, Christ règne à travers nous, à travers les personnes, à travers des individus. Ce n'est pas que ça, c'est aussi ça. Et il s'établit à travers nos actions. C'est pas, nos actions ne nous sauvent pas. nos actions contribuent à édifier le règne de Dieu dans le monde, ce qui est essentiel. Nos prises de position, nos actions de solidarité avec les autres, nos actions de libération contre l'exploitation, l'oppression, la discrimination sont des actions qui participent à édifier le royaume de Dieu. Face à l'injustice économique, il y a des choses qu'on prend pour acquis. Hein? C'est le salaire que j'ai, c'est le salaire que j'ai. Bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Quand on a un salaire qui ne nous permet pas de vivre décemment, de vivre dignement comme fils et filles de Dieu, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est en train de financer l'entreprise avec notre salaire. Quand on est payé le salaire minimum, là, puis qu'on sait très bien que ça prend 30 pièces de l'heure pour vivre, toute cette balance-là, c'est le travailleur qui finance l'entreprise avec ça. L'entreprise n'est pas viable. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce système-là. Quand l'Hydro m'annonce qu'ils font des profits, oh, quel succès, c'est un échec. L'objectif de cette entreprise-là, c'est d'offrir un service. Pas de faire des profits, ils se sont trompés quelque part. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris dans notre système social et politique. On a un rôle à jouer, on a quelque chose à dénoncer. C'est, ce qu'on veut, c'est édifier une collectivité, pas enrichir certains intérêts économiques. Mais ça, il faut y penser comme il faut. Quand on n'a pas le salaire qui nous permet de bien vivre, on est en train de financer notre entreprise. Bon, on en est conscient. On travaille pour l'Alliance, on travaille pour notre Église, on travaille pour notre école de théologie, puis c'est comme ça que ça se passe et on l'accepte. Parce qu'on dit, oui, on veut financer ça aussi. On veut participer à l'édification du royaume de Dieu à travers ces œuvres-là. Bon, des fois, certaines institutions peuvent un petit peu abuser, mais bon, c'est autre chose. Parce qu'on investit volontairement dans ces œuvres-là. Mais quand on est avec une entreprise privée qui fait des profits honteux, qui exploite des travailleurs dans d'autres pays sans conditions de travail dignes, là, ça ne marche pas. On ne peut pas accepter ça. Et ça, ça fait partie du devoir du croyant de pouvoir dénoncer, de pouvoir faire des choses pour améliorer ces conditions-là. Ça part des choses les plus simples aux choses les plus complexes. Dieu met dans notre cœur ce qu'on a à faire. Et puis la question de « je ne suis pas capable » ou « non, ça, ça ne se fait pas, puis on ne peut pas renverser ça, puis ce n'est pas comme ça que ça marche. » C'est le Seigneur qui décide. Nous, c'est à lui qu'on obéit. Et puis on fait notre part. Et chacun à sa mesure, chacun avec la place qu'il y a dans la société. Il n'y a pas de façon d'intervenir plus noble que d'autres. Tous, on a un rôle à jouer, tous on le joue parce que Dieu nous a demandé de jouer ce rôle-là. Personne ne va être le sauveur de tout le monde. Il y en a un sauveur qui est mort pour nous. Nous, on est investis de son pouvoir pour jouer un petit rôle qui apparaît petit, et souvent plus ça apparaît petit, et plus ça peut être déterminant pour l'avènement du règne de Dieu. Et si on ne le sait pas, on le saura après. Quand on sera rendu là, pour l'instant, c'est la foi qui nous guide, l'investissement de nos énergies dans ce projet-là. Donc, on retient ça quand même. Chaque fois qu'on a des manques de confiance, chaque fois que quelqu'un va vous traiter de prétentieux quand vous parlez de la parole de Dieu, quand vous annoncez le Seigneur, méfiez-vous. Parce que l'ennemi attaque nos attitudes, quand ça attaque votre personne, quand ça attaque vos attitudes par rapport à des situations, quand quelqu'un arrive dans une situation de conflit et puis il n'est pas paniqué, on dit « ouais, il ne se prend pas pour qu'il se prend ce gars-là, hein, il est au-dessus de tout, il ne faut pas perdre notre calme ». Justement, celui qui veut faire perdre notre calme, c'est l'ennemi qui agit en nous, on ne tombe pas là-dedans. Parce qu'il va attaquer nos attitudes, parce que nos attitudes vont nous amener à poser des gestes édifiants pour le règne de Dieu. Et il attaque là, nos attitudes, notre confiance en nous, notre confiance aux autres. faut être tout simplement juste averti de ça. Et à chaque fois que quelqu'un nous passe un commentaire, qu'il passe, qu'est-ce qu'il critique? Évidemment, quand on prêche comme ça, qu'on apporte la parole, il y a une critique qui vient. Martin, il y a quelque chose, peut-être là, je souligne un élément de ton texte. Ah, ça c'est autre chose. Là, il faut être ouvert à cette critique-là. C'est un frère qui essaie d'apporter quelque chose au contenu. Il ne m'attaque pas personnellement. Il essaie de comprendre quelque chose. Souvent, ils vont l'amener avec l'amour d'un frère chrétien en posant une question. Et puis là, il faut s'en servir pour réfléchir, pour remettre des choses en question, parce que tout ça, tout ce que je dis là, n'est pas terminé pour moi. On est toujours en processus. Et c'est jamais terminé. Puis quand on présente, quand on vient prêcher la parole, la prédication n'est jamais terminée. Il y a toujours des vides. Et il faut toujours maintenir ces vides-là parce qu'il faut laisser de la place à l'Esprit pour qu'il agisse. On ne peut pas arriver et dire « je verrai bien ce que je dirai à ce moment-là ». Pas tout à fait comme ça que ça marche non plus. Mais tout ne peut pas être soudé dans un bloc. Il faut laisser de la place à l'Esprit. J'ai vu des cours d'homélitique dans d'autres confessions chrétiennes où là, oui, ça nous prend quelque chose de bien serré. Une page, parce qu'il ne faut pas que ça dure plus que 7 minutes. Il ne faut pas choquer personne. Bon, je ne sais pas où l'Esprit peut travailler là-dedans. Mais rien n'est achevé. Le Seigneur est toujours en train de travailler à travers nous. Et puis aussi, il va utiliser les autres pour apporter des éléments, puis dire, ah là, il y a quelque chose dans ma vie que j'ai à corriger, à retravailler. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut, ce n'est peut-être pas tout à fait adapté. Quelqu'un pourrait dire, ouais, je pense quand même les catholiques peuvent mériter plus de respect que tu en as eu ce matin, ou plus de respect. OK, peut-être que je suis allé trop fort à ce moment-là, là je le remets en question. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra avec ce qu'on reçoit, avec la prière aussi. C'est comme ça. Là, il y a une autocritique qui se fait. Parce que l'Église, pour s'approcher de Christ, doit être confessante, doit confesser, doit se critiquer dans le sens très positif du terme, parce qu'on veut toujours s'améliorer. On n'a pas encore tout à fait atteint la perfection, quand même. Et on en est loin. Mais quand on attaque vos attitudes, quand on vous attaque personnellement, des caractéristiques physiques, ça c'est juste pour déstabiliser, ça c'est l'action de l'ennemi, c'est autre chose. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Dieu jamais va critiquer la façon dont il nous a créés. Manque une jambe, tu parles tout croche. Dieu nous a créés comme à la perfection, à sa perfection. Comment peut-on laisser? Comment peut-on penser? Ça peut être positif, quelqu'un qui critique ces aspects-là de nous. Jamais. C'est l'ennemi qui agit. Résistons à ça. Ne le croyons pas. On ne croit qu'en un seul Dieu, et c'est Christ incarné dans le monde. C'est Dieu de Jésus. Prions le Seigneur. Pour terminer. Seigneur, on te prie ce matin pour que tu enchaînes l'ennemi encore plus serré, que tu l'expulses de notre cœur, de nos têtes, de nos pensées, de nos vies, Seigneur. Renvoie-le d'où il vient, Seigneur. C'est ça sa place. Nous, notre place est avec toi, Seigneur. On t'invite, Seigneur, à nouveau. Dans nos vies. Parce qu'on reconnaît, Seigneur, qu'on est pécheur et on reconnaît, Seigneur, que c'est juste avec toi que le salut est possible. Puis parce qu'on reconnaît ça, on veut te servir dans le monde, Seigneur. On veut être les tiens, Seigneur, puis construire ton règne depuis maintenant. Utilise-nous, Seigneur, pour ton honneur, puis ta gloire, puis l'édification de ton règne dans le monde. Au nom de Jésus, on prie. Amen.